Jean-Jacques Ayagon, nous passons donc cette semaine en votre compagnie, bonne compagnie, et nous suivons le fil de nos émissions. Le lundi soir, nous parlons ici de spectacle vivant. Alors, entendu évidemment au sens large, est-ce que c'est une pratique c'est compliqué d'aller au théâtre, à l'opéra, à la danse. Il y a des moments où on y va beaucoup dans sa vie, d'autres moins. Est-ce que vous avez besoin de rentrer dans les salles de spectacle ?
J'y suis allé énormément. Je pense que j'ai dû passer 20 ans, 25 ans de ma vie à aller tous les soirs au spectacle. Et je dois vous avouer que l'organisation de ma vie privée et de ma vie professionnelle, des déplacements très très fréquents, fait que j'y vais beaucoup moins souvent. Mais à chaque fois que j'ai la possibilité d'y aller, que j'essaie de grappiller un moment pour aller au spectacle, pour aller au théâtre, ou pour aller voir un spectacle de danse, j'en suis extrêmement heureux. D'abord, j'ai l'impression de redevenir jeune, de renouer avec des rites anciens, et puis d'autre part, j'en éprouve toujours un très très grand plaisir, surtout quand je reviens dans des théâtres qui m'ont été extrêmement familiers, qui me sont restés familiers, où je retrouve beaucoup de souvenirs. Je ne peux pas aller au Théâtre de la Ville sans me souvenir de Jean Mercure, vous voyez, ça remonte très très loin, et ensuite me souvenir de Gérard Violette, toujours assis à la même place, au milieu de ses invités, applaudissant à tout rompre, de façon à leur dire qu'il fallait surtout applaudir.
Fidélité au lieu, fidélité, j'imagine, aussi à des metteurs en scène, à des comédiens, des comédiennes. Qu'est-ce qui détermine pour vous le choix d'un spectacle, surtout, effectivement, quand vous y allez peut-être moins ?
C'est toujours intrinsèquement ou la qualité de l'ouvrage. Alors, je vais vous faire une confidence, là aussi, je suis très attaché quand même à pouvoir aussi souvent que possible revoir des grandes pièces du répertoire fondateur, donc le grand répertoire des 17e, 18e, 19e et 20e siècle, puisque le 20e siècle fait désormais partie de notre répertoire, surtout quand j'ai la chance de pouvoir confronter la mise en scène qui est proposée à ce moment-là avec des mises en scène que j'ai vues autrefois, des grands Tartuffes qui ont pu m'éblouir. Je me souviens également de quelques mises en scène tout à fait exceptionnelles de Patrick Chéreau. Bon, tout ça m'a marqué. Donc quand je peux confronter, me comparer, j'en suis extrêmement, extrêmement tonifié.
Qu'est-ce qui, dernièrement, vous a ému, transporté, ou qu'est-ce que vous avez envie
Écoutez, ce sont surtout des envies, parce qu'à vrai dire, la saison débute. Bon, elle a débuté d'ailleurs, et donc je compte au cours des prochains jours aller voir les géants de la montagne, Pirandello, mise en scène par Stefan Braunschweig au théâtre de la colline. Bon, c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup la rigueur, l'intelligence pleine de quiétude. Donc, j'ai lu beaucoup d'excellentes critiques sur ce spectacle. Je crois que c'est un spectacle qui mérite vraiment d'être vu. Alors, j'attends aussi avec beaucoup d'impatience un spectacle un peu plus tard dans la saison. C'est au mois de novembre, une mise en scène de Roméo Castellucci, l'Oedipus Der Tyrann de Hölderlin. C'est un metteur en scène qui a beaucoup divisé l'opinion française au cours des derniers temps, cette année dernière ou il y a deux ans, provoquant du scandale. Voilà, quand un auteur ou un metteur en scène est capable de provoquer de l'émotion, du scandale, c'est qu'il finalement il nous permet d'échapper à l'indifférence, cette sensation comme ça que peut procurer un metteur en scène très très audacieux. Là aussi, ça, finalement, c'est toujours une invitation très très forte à repenser au texte, à réfléchir, à se remettre en cause également. Je crois que c'est important aussi d'aller voir Castellucci à un moment où des imbéciles, ou même des criminels d'ailleurs, à Versailles, vont ravager une œuvre d'Anish Kapoor. Ce sont les mêmes qui faisaient le siège du théâtre du Rond-Point pour contester violemment la présentation d'un spectacle qui ne leur convenait pas. Paris, finalement, c'est aussi cette place qui permet à la fois parfois tout simplement d'être heureux au spectacle, de se délecter d'un grand texte du répertoire, dans une mise en scène apaisée, parfois aussi de découvrir de nouvelles propositions, donc des choses qui vous retournent, qui ne sont pas toujours convaincantes, mais c'est le risque de la création. Voilà, la création doit comporter une part de risque, sinon c'est un endormissement. Puis d'autre part, j'attends aussi avec vraiment impatience, dans le cadre du Festival d'automne, un spectacle qu'on qualifiait autrefois de spectacle du monde, donc la présentation du rituel d'une chamane nord-coréenne, dont je n'arrive jamais à prononcer très très bien le nom. Je crois que je l'ai même noté là, c'est Kim Kum HVA, je ne sais pas comment ça se prononce. Là aussi, le Festival d'automne au Théâtre de la Ville reste dans la grande tradition du Festival d'automne. Je me souviens que dès les premières éditions du Festival d'automne, à l'époque de Michel Guy, hein, ce festival avait coutume chaque année d'inviter un spectacle qui explorait la diversité des pratiques de la scène, de la mise en scène, de la danse, de la musique, dans les cultures qui n'étaient pas au cœur de notre système culturel. Je crois que la première invitation qui avait été faite par le Festival d'automne, c'était les danses de Bali. Et donc finalement, j'irai voir ce spectacle au Théâtre de la Ville avec beaucoup d'impatience. Il paraît d'ailleurs que cette chamane est prodigieuse, hein, qu'elle réconcilie les vivants entre eux, qu'elle dissipe le mal. Donc espérons que son rituel étendra ses bienfaits à toute l'assistance du théâtre et au théâtre lui-même. Voilà, mais enfin, voilà, c'est le genre de spectacle dont je suis toujours très curieux parce que ça m'ouvre un peu, ça m'élargit l'esprit, et puis j'en suis en général très très heureux.